Mama. Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1050 aujourd'hui, en ce samedi 5 janvier 2019, première émission 2019, Sweet Home Chicago, le samedi de 13h à 16h. Et on démarre avec cet album Redemption, qui est le nouveau disque du mois. C'est Joey Bonamassa sur Provogue, Mascotte Label Group. Voilà, on en écoutera d'autres extraits, bien sûr, au cours de toute cette émission et de la suivante, qui aura lieu le 22 janvier. J'espère que tout le monde va bien. Bonne année à tous, bien sûr, et à toutes les auditeurs, auditrices de Sweet Home Chicago et de Radio 666. Voilà, 13h, 16h, c'est le moment, c'est tout de suite. On va s'en payer une bonne tranche avec quelques invités. Tout à l'heure, vers 13h15, j'aurai Fred Zick Kazik Delforge au téléphone. C'est pas la première interview de Fred, mais il y aura des tas de choses dont on n'a jamais parlé ensemble, même en privé d'ailleurs, dont on parlera à la radio, parce que Fred est invité dans le cadre de ses interviews, vous savez, de photographe du blues. On parlera bien sûr aussi de France Blues et du prochain voyage dans le Mississippi. En deuxième heure, à partir de 14h, il y aura Fred Test, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Moose Trio, qu'on va découvrir tous ensemble, avec un tout nouvel album qui s'appelle Wrong Track. Et puis, vous avez été très nombreux à me réclamer des dédicaces. Donc je pense que toute la troisième heure sera tapissée de votre patte à vous, c'est-à-dire Sweet Home Chicago, c'est vous qui faites l'émission, puisque 10 dédicaces sont au programme. Voilà le menu de ce 1050e Sweet Home Chicago qui démarre avec d'autres nouveautés. Voici tout de suite Monsieur Matt Walklate à travers un très très bel album assez versatile avec beaucoup de styles différents. Moi j'adore la patte de ce monsieur Matt Walklate. Ça s'appelle Could Have Been.
Same combination that fits like your lock and my key. Well, it won't be left long. Day goes by. You don't think I could have been. You're gonna think what we could have been. Started a family. How you know that we could have been three? Well, it won't be left long. Day goes by. You don't think I could have been. You're gonna think what we could have been. Are you sleeping? I mean everything that you feel. Well, it won't be a livelong day goes by. You don't think I could have been. You're gonna think what we could have been. Your sins will find no redemption. There are some things that time cannot heal. Well, it won't be a livelong day goes by. You don't think I could have been. You're gonna think what we could have been. When the sunlight catches your shadow, when the memories grow like a weed, when it won't be a livelong day goes by, you don't think I could have been. You're gonna think what we could have been.
Voilà, il n'y a pas que Paul Lamb en Angleterre, il y a également Matt Walkleit, il nous vient de Manchester, un bel artiste anglais à découvrir. On poursuit avec, je pense qu'on va faire l'essuie-glace entre les États-Unis et l'Europe, avec tout à l'heure Joey Bonamassa, USA, Matt Walkleit du côté du Royaume-Uni. Et puis on retraverse l'Atlantique avec Monsieur Chris O'Leary. Il y aura une autre nouveauté tout à l'heure, mais là, en attendant, voici 7 minutes late. Je pense qu'on n'est pas à 7 minutes près quand on traverse l'Atlantique. Voici What the Devil Made Me Do, Chris O'Leary, dans la radio. presque aussi tonitruant que l'album de Joey Bonamassa et celui de Chris O'Leary avec des cuivres en plus. Il y a quelques titres qui sont vraiment, vraiment enthousiasmants. C'est produit par Chris O'Leary lui-même et Ben Elliott. Et ça nous vient des States chez America Showplace Music. Chris O'Leary, l'album, je vais y arriver, s'appelle Seven Minutes Late. On poursuit avec Redemption, disque du mois de janvier 2019. Voici un second titre, monsieur Joey Bonamassa avec King Bee Shakedown. Et juste après, notre premier invité au téléphone, ce sera Fred Zikazik Delforge. Voilà, ça résonne jusque dans l'appartement de Fred Delforge. Bonjour Fred, comment ça va ?
Bonjour Marc,
Ça va bien.
Bonne année à toi et puis bonne année à tout le monde surtout.
Écoute, on t'entend pas. Hein. Super. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté en trifouillant le petit bouton.
Je vais essayer de crier si tu veux.
Oui, c'est chose possible.
C'est normal, après Bonamassa, t'es un peu sourd.
C'est ce que j'allais te dire, Joey Bonamassa. T'en penses quoi de ce garçon?
J'en pense quoi? Je trouve que c'est très important d'avoir un garçon comme ça qui arrive à faire rentrer des jeunes dans le blues. Parce que il a une grosse popularité, il a beaucoup d'auditeurs et en fait il attire énormément de personnes sur le blues. Et il y a plein de gens qui viennent écouter d'autres choses, du style B.B. King et compagnie, grâce à ce gars. Je trouve ça assez formidable.
Donc si je résume ce que tu viens de dire, c'est bien qu'il y ait Joey Bonamassa parce que ça permet aux gens d'écouter autre chose que Joey Bonamassa.
Il n'y a pas de raison.
Ben bien sûr, non mais voilà, c'est vraiment le genre d'artiste qui est en passe de devenir un peu universel. Bon, moi j'aurais quand même un petit reproche à l'égard de Joey Bonamassa, ou du moins de sa production, les gens qui sont autour de lui. Je viens de découvrir un peu le contenu de sa prochaine tournée européenne. Les tarifs sont proprement prohibitifs. Je suis pas sûr qu'on aurait payé tellement plus cher pour aller voir Clapton, par exemple, tu vois.
Non, c'est certain. En même temps, il y a une grosse équipe, il sort un album par jour, il fait une 7 heures toutes les 20 minutes, donc il faut du monde, et ça se paye.
C'est vrai, un album par jour, on n'est pas loin.
Au niveau des lives, c'est pratiquement ça.
Fred, j'ai l'avocat de Joey Bonamassa sur une autre ligne. Est-ce que tu veux que je te le passe tout de suite ?
Oui, bien sûr, pas de problème.
Alors, si je t'ai invité, c'est bien sûr pas pour parler d'un garçon qui va, je pense, faire couler pas mal d'encre, que ce soit du côté de l'Internet ou dans les journaux ou partout, et puis qui le fait déjà depuis plus de 25 ans, malgré son toujours jeune âge. Ben, c'est plutôt pour parler de ton activité autour du blues. Alors, on écoutera tout à l'heure un titre et ça nous permettra de couper cette interview en deux, parce que la première partie, j'aimerais qu'on la consacre, Fred, si tu veux bien, à ton activité autour de la photographie. Voilà, parce que comme tu le sais, j'ai invité d'autres confrères, d'autres camarades à toi, même des gens qui font des photos floues, il y en a eu. Hein.
Aussi, oui.
Dis-moi ça, c'est ce que tu dis. En clair, pour les nommer, on a eu déjà Sylvie Bosque, on a eu donc Yann Charles et on a eu Evelyne Balliner. Et toi, tu es le quatrième de la liste. Dans 15 jours, on aura Alain Yo et puis ensuite, ce sera Jack Pixel. Alors bien sûr, vous n'êtes pas les 6 seuls photographes autour du blues et pas que, mais je vous ai invité pour parler de cette passion. D'abord, Fred, est-ce que la photo, c'est quoi? C'est un biais pour écouter de la musique au premier rang, ou c'est vraiment une passion qui te dévore depuis des années, comme tous les autres?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est une passion, oui, dans le sens où j'ai toujours fait de la photo, mais c'est pas un élément vital pour moi. J'arrive à me passer de faire des photos pendant très très longtemps. La photo, c'était surtout un plaisir. J'en ai fait beaucoup dans une vie antérieure, à l'époque où je faisais d'autres choses. Et puis, me retrouver au premier rang des concerts, j'ai eu d'autres méthodes. Entre autres, j'ai travaillé quelques gros groupes qui m'ont donné des entrées un petit peu partout. Donc ça a été assez simple pour moi.
On peut parler de Trust, par exemple.
Oui, entre autres, mais c'est pas le seul des groupes. J'ai un petit peu traîné mes guêtres avec téléphone, avec les porte-manteaux, avec tous les groupes de la génération Time. Donc j'ai vu pas mal de choses. Donc les concerts au premier rang, j'avais pas besoin de la photo pour le faire. Mmh. Après, c'est devenu un besoin, dans le sens où tu connais ma rapidité pour faire des articles.
Oui.
Et il fallait un photographe qui soit capable de répondre aussi vite. Et j'en ai trouvé quelques-uns, mais qui répondaient en deux jours, alors qu'il me fallait des photos le jour même. Donc j'ai ressorti l'appareil photo.
D'accord.
Et je me suis débrouillé pour faire mes photos de concert moi-même.
Ça, c'est par rapport au fait que tu animes depuis des années maintenant un webzine qui s'appelle Zikazik. Et c'est vrai que tu dégaines plus vite que ton ombre. À peine le concert terminé, hop, chambre d'hôtel, le compte rendu et dodo, quoi. Et le lendemain matin, tout le monde peut, comme si on ouvrait l'Ouest France ou le Parisien.
Ouais, c'est un peu l'idée.
Voilà. Et donc, on colle à l'actualité. Ça fait combien de temps que ça existe, Zikazik?
Zikazik va avoir 18 ans dans les semaines qui viennent.
D'accord.
Pour dire, ça doit être au niveau du mois de mars, quelque chose comme ça. On aura 18 ans à ce moment-là.
Une rapidité qui n'exclut pas, bien entendu, la qualité. Moi, je suis toujours épaté quand je vois le nombre de chroniques de disques dont tu es capable également, parce que tu reçois un disque, c'est pas juste pour le mettre sur la cheminée et l'écouter deux, trois fois, c'est pour faire une chronique, fouiller, documenter, toujours argumenter et j'allais dire, érudite, finalement.
J'essaie, dans la mesure du possible, de chercher le positif du disque pour aller le démolir en disant ouais, c'est pas bien, le troisième bémol était faux. Voilà, c'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de récupérer ce qu'il y a d'intéressant dans un disque.
Oui, en fait, oui, Fred, tu m'entends toujours? Ah, et ben voilà, petite interview qui va. On va essayer de repartir sur le direct tout de suite. C'est des choses qui arrivent, peut-être une fausse manip. Voilà, c'est simple, il suffit de qu'est-ce qu'on fait. On va mettre un disque, hein, tout simplement, et puis on écoute la suite de cette interview en direct juste après, je l'espère. Je pense qu'on a retrouvé le direct avec Fred. Tu es toujours là ?
Oui, t'as dû passer sous un tunnel.
Je suis exactement ça. Je ne sais pas comment t'as deviné. La radio est passée en entier sous un tunnel. On était en train de parler de Zika Zik et puis de ses chroniques de disques, de concerts. Alors ça, c'est des activités qui t'occupent depuis, tu l'as dit, 18 ans. Ça fait 2001, si j'ai bien compté.
Ouais.
Ça correspond au moment où tu as commencé à t'intéresser à un festival sur Mantes-la-Jolie, où tu habites depuis les origines. D'ailleurs, tu as toujours habité Mantes-la-Jolie.
Ouais.
Le festival Blues sur scène, et où tu as, j'allais dire, épaulé de plus en plus des gens comme, à l'époque, Jean Guillermo, avec l'écuyer.
Ouais, c'est des personnes avec qui on a fait un bout de route et avec lesquelles on a pas mal avancé, plus au niveau du blues donc, et pour cause, et ouais, ça reste un très très bon souvenir. On a fait des belles choses ensemble et j'en reste très fier.
On parlera tout à l'heure de tes activités avec France Blues, dont tu as pris la présidence l'année dernière, mais là, sur la photo, moi j'ai quelques petites questions, parce que tes amis dont on parlait tout à l'heure, qu'on a cité plus haut, m'ont donné quelques infos par rapport à leur passion de la photo, et toi, j'ai l'impression, voilà, la photo, c'est quelque chose qui vient en plus se rajouter à ton amour de la musique. C'est pas forcément la passion des pixels, aller fouiller les choses pour essayer de trouver la meilleure résolution possible, et puis ensuite exposer ça un peu partout. C'est pas ça qui t'a fait avancer, alors?
Pas du tout. En fait, la qualité technique, c'est pas mon souci principal. Mon souci, c'est d'essayer d'avoir un instant, d'essayer d'avoir quelque chose de vivant, quelque chose de pur. Et donc, je ne retravaille pas mes photos, je ne passe pas de temps à les recadrer, et j'essaie de faire la photo la plus naturelle et la plus basique possible. Alors, ce qui me permet aussi de me battre dans la catégorie photo flou, parce que j'en fais des très belles dans le genre, et ça me permet de faire des photos qui sont très dispensables selon certains de mes collègues, et j'en suis relativement fier. Mais je trouve ça sympathique. En fait, le but du jeu, c'est que la photo réussisse à retranscrire l'émotion que j'ai eue en la faisant.
D'accord.
J'ai pas de. Après, le nombre de pixels, la couleur, le machin, aplatir, régler. C'est en fait pour ça que je ne travaille pas en format RAW. Je travaille exclusivement en JPEG et sans jamais retravailler mes photos, à part des fois les éclaircir un peu.
Oui, parce que c'est pas toujours évident. On en parlait d'ailleurs il y a 15 jours avec Evelyne Balliner. Il faut composer avec l'ingénieur lumière.
Oui, bien sûr, mais ça fait aussi partie du truc. On a des appareils à 5-6 000 euros dans les mains. Je sais pas, le mec qui a 10 000 euros de matériel dans les mains et qui se plaint que la lumière n'est pas bonne, il faut qu'il fasse autre chose, quoi.
D'accord, donc ça... voilà. Donc plus le matériel est cher, plus il est sophistiqué, plus on peut s'affranchir même de la pénombre. On peut arriver à capturer une image, et à récupérer une image, pardon, d'un artiste qu'on ne voit pas forcément avec ses simples yeux.
Alors celui qui veut vraiment le faire arrive à le faire. On a des appareils qui sont tellement puissants.
C'est dingue, ça.
Tu sais, quand tu vois maintenant le moindre iPhone te fait des photos qui sont phénoménales.
Ouais.
Y a des moments, si on n'avait pas ce problème d'accès devant pour faire des photos avec un vrai appareil, il y a pas mal de photos que je ferais à l'iPhone parce que c'est quand même beaucoup plus pratique.
Qu'est-ce que c'est un vrai appareil, Fred? Pour toi, c'est un Canon ou un Nikon? Ou autre chose.
Ça n'a pas d'importance, c'est la
Canon
classique. Moi, je suis Canon depuis les années 70 et j'ai continué à travailler avec. C'est un confort d'utilisation. Après, dire après que ce soit Konica, Minolta ou tout ce que tu veux, Leica et compagnie, pas vraiment d'importance pour moi.
Donc la technique, oui, voilà, on a très très vite évacué ça. Je voudrais savoir, Fred, si au niveau artistique maintenant, est-ce que tu as déjà exposé des photos à toi? Est-ce que je parle d'exposition, hein, sur Simez, on est bien d'accord, hein, pas pour Internet.
Ouais, j'ai fait quelques expositions. Je t'avoue que c'est souvent contraint et forcé parce que c'est pas vraiment mon truc. J'ai fait une exposition, je me souviens, en 2012, le foyer des jeunes travailleurs m'avait demandé de faire une exposition dans ses locaux, donc j'ai accepté de faire une exposition sur les scènes montaises, donc foyer des jeunes travailleurs de Mantes-la-Jolie. J'ai accepté de faire une exposition, mais j'ai tout de suite demandé à mes complices d'exposer avec moi, parce que je voulais pas mettre mes photos uniquement.
Mmh.
Donc Alrio m'avait accompagné, Olivier Urbanet m'avait accompagné, et quelques autres photographes s'étaient greffés à cette expo. Et j'ai refait une expo aussi à Cahors, je ne sais plus en quelle année, ça doit être 2014 ou 2015.
Ouais.
Robert avait insisté pour que je fasse une exposition, il avait exposé d'autres photographes avant, il avait exposé Sylvie, il avait exposé Alain, je pense qu'il avait exposé Evelyne aussi, il voulait que je le fasse. Et je m'étais mis d'accord avec lui, en fait on avait fait une exposition tripartite où il y avait un tiers de mes photos,
d'accord.
Un tiers des photos d'Alain et un tiers des photos d'Evelyne. Mais voilà, le fait d'exposer pour exposer, je t'avoue que j'ai énormément de mal à regarder mes photos une fois que je m'en suis servi, donc choisir des photos c'est déjà un sport pour moi.
Dis-moi, au niveau pratique, tu évoquais le festival de Cahors, il y a d'autres, bien bien d'autres festivals dans bien bien d'autres pays, puisque tu es un infatigable globe-trotteur, Fred. Quelles sont les conditions dans lesquelles tu travailles quand tu es dans le pit, juste devant la scène? Il y a des gens qui sont forcément plus petits que toi, à peu près tout le monde. Comment ça se passe, dis-moi?
ça se passe relativement bien, parce que j'essaye de pas me coller à la scène. J'essaye de pas me coller à la scène pendant trop longtemps. Déjà, je tire systématiquement le chapeau pour faire gagner 10 cm à tout le monde. Et quand on a accès, tu vois, les restrictions à 3 morceaux, je vais rarement au bout des 3 morceaux. Si je fais un morceau et demi, 2 morceaux, ça me suffit très largement. Je fais quelques photos sur le devant de la scène. Et après, je me casse très vite dans le public pour aller écouter le concert, plutôt que rester collé à la scène, à faire des photos et à ne rien entendre.
Cette histoire de restriction pour les photographes qui sont juste devant la scène, vous faites les 3 premières photos et vous vous cassez, ça veut dire que vous passez tout le reste du concert à la buvette ou dans le fond, parce que les gens sont déjà agglutinés devant la barrière. Comment tu prends ça, toi, Fred?
Moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Quand les artistes jouent le jeu, ça ne pose pas de problème. On a eu une mauvaise expérience au Danemark, au Blues Heaven Festival, avec Robert Cray, qui nous a fait 3 premiers morceaux. C'était même pas 3 premiers morceaux, c'était un morceau.
Wow.
C'était le premier morceau.
C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas une goutte de sueur sur le front de Robert Cray.
Surtout, il est arrivé à la fin du morceau. Quoi.
Ah, en plus.
ça a été assez sympathique.
Alors, excellent.
Quand tu vois 10 minutes avant le manager passer dans la salle de presse en disant ouais, je vous donne ma carte, vous pourrez m'envoyer vos photos parce que je les voudrais pour les mettre en ligne sur Internet, etc. etc.
Ouais.
Bon, je trouvais ça pas très cool. Comme on savait, on connaissait déjà les conditions, je lui en ai parlé, je lui ai dit bah écoute, si tu veux qu'on fasse des photos, laisse-nous les faire.
Oui, et il fallait lui envoyer une photo de la buvette, je sais pas. Ouais.
Voilà, oui, j'ai envie des conneries aussi. C'est le genre de choses que je fais très bien.
Donc ça fait partie des mauvais souvenirs. Il y en a eu d'autres, on va parler des bons aussi. Il y a des rencontres forcément avec des artistes. Ça se passe toujours bien à 100%, Fred?
Ouais, globalement, globalement, les rencontres avec les artistes se passent bien, dans le sens où on n'a pas de difficultés particulières, et dans le sens surtout où ils ne prennent pas pour un photographe à la base.
Oui.
Donc ça aide beaucoup.
Quand on te prend pour un photographe, quand on prend les autres photographes pour ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'il en est des relations au niveau droit à l'image? Je veux dire, c'est très compliqué. On entend souvent sur les réseaux sociaux des petites bagarres entre celui qui a pris la photo, à qui ça appartient, et celui qui est sur la photo et à qui ça appartient. Comment ça se passe, cette histoire? Parfois, il y a des conflits quand même.
Il y a forcément des conflits parce que l'artiste considère que c'est lui qui est sur la photo, donc que la photo lui appartient. Le photographe considère que c'est lui qui a pris la photo et que la photo lui appartient. Les deux points de vue se défendent.
Ouais.
Après, il y a tout le temps moyen de trouver des terrains d'entente avec les artistes. Je sais que j'ai jamais eu de problème particulier. En même temps, j'ai jamais eu de photos particulièrement exceptionnelles au point que les artistes me les demandent. J'en ai fait sur quelques gros festivals. J'ai jamais été très très chiant par rapport à.
Tu as fait des photos d'affiches, des photos des pochettes de disques ou des affiches de festivals ou des couvertures de magazines.
Ouais, j'ai eu quelques pochettes de disques il y a longtemps. Je m'en souviens d'une en particulier, c'était un DVD qu'on avait fait avec Blues sur scène, dont tu parlais tout à l'heure. On avait fait un DVD sur lequel on parlait de. Je ne sais plus exactement ce que c'était. C'était au Collectif 12, c'était des danseurs de hip-hop, du slam et des choses comme ça.
Mm-hmm.
J'avais participé à faire la
C'était pas le projet Mante-le-Son, c'était autre chose.
Non, c'était un projet qui appartenait à Blues sur scène.
D'accord.
Et c'était suite à un spectacle, on avait fait un projet en relation avec Robert Johnson et avec le slam. Ça avait été quelque chose d'assez sympathique. J'avais sorti des photos à la demande de la personne qui s'occupait du festival à l'époque. Ça devait être Arnaud Bell, si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'était déjà lui. Et il m'avait demandé l'autorisation de faire la pochette de ce DVD avec une de mes photos, chose que j'avais acceptée sans aucun problème. Ça fait pas partie de la chose. Après, les photos, c'est pas mon métier, j'essaie pas d'en vivre. Il y a plein de choses que je fais dont j'essaie pas de vivre. Donc le fait de donner une photo ne pose pas de problème.
Ouais,
je comprends que des photographes professionnels aient besoin de vendre leurs photos pour vivre. J'essaye dans la mesure du possible de ne pas leur faire de concurrence et de ne pas donner mes photos à des gens qui pourraient leur acheter les leurs.
Oui, mais c'est ça. J'ai l'impression que ça se passe bien quand même. Il y a une espèce de confrérie des photographes. C'est un petit peu comme entre les musiciens amateurs ou les musiciens professionnels ou semi-professionnels. Chacun a son circuit. C'est vrai que certains arrivent à se retrouver sur les mêmes scènes, notamment dans les festivals, mais l'ambiance est quand même relativement cool.
Ah oui, on a une très bonne entente entre tous les photographes. On se repasse les plans quand on est, je pense à la traverse par exemple avec Evelyne et Jeff. On est tout le temps à se dire tiens, ben récupère. Bon, la traverse c'est un petit peu particulier, il n'y a pas de pit. Donc on est Jeff qui est assez imposant, arrive tout le temps à glisser pour te laisser passer à sa place. On a une très très bonne entente et on se retrouve régulièrement avant les concerts ou après les concerts à discuter ensemble.
Fred Delforge, je te propose un truc. On va écouter un disque et un truc que tu as choisi d'ailleurs. Et puis juste après, on se fait une deuxième partie d'interview ensemble, toujours en direct sur le 666, à propos de tes activités pour France Blues et aussi du prochain voyage au Mississippi. Bah là, ce mois-ci, au mois de janvier.
Ouais,
on fait ça.
Okay,
tu as choisi un titre de Watermelon Slim. C'est un artiste qui t'a laissé quelques souvenirs, notamment sur Cognac. Je sais pas si il y a eu des contacts particuliers avec Watermelon Slim et toi.
Je ne l'avais pas vu à Cognac. Je l'ai rencontré à Blues sur scène il y a assez longtemps. On avait bien sympathisé et on s'est retrouvé à plusieurs reprises. On s'est retrouvé au Baobab justement à Frederikshavn. On s'est retrouvé sur Paris dans des concerts et on s'est retrouvé chez lui surtout avec une douzaine de Frenchies qui ont été dans son jardin le matin à Clarksdale.
Barbecue party à Clarksdale avec Watermelon Slim. Oui, dans la série. Ouais, pourquoi être ailleurs?
C'était plutôt le café parti.
Écoute, je te dédicace un titre, Fred, qui s'appelle Good Old Boys Never Change. Ça te va?
Merci, Marco.
À tout de suite. Ne quitte pas.
Good old boys never change. Eating pies teach our children right. About the time for making love, about the time to fight, about the way of making up a don't have something right. Good old boys never change.
Voilà un titre essentiellement country, Good Old Boys Never Change, spécial dédicace pour notre ami Fred Delforge qui est l'invité de cette première heure de la première émission de 2019. Toujours avec moi Fred ? Fred, est-ce que tu m'entends ? Fred. Ouais, il est là.
Oui, je suis là.
Bon. Alors, on dirait que tu es sur Apollo 13, là. Enfin, c'est pas grave, ça se déroule quand même. Fred, je te propose cette deuxième partie d'interview autour de tes activités sur France Blues. Et d'abord, peut-être nous expliquer ce qu'est France Blues et depuis quand ça existe et surtout à quoi ça sert.
Alors, France Blues, on est en 8e année. C'est une fédération qui tente de centraliser les diverses forces vives du blues, ouais, et de les faire connaître non seulement au national mais aussi à l'international, donc en communiquant le plus largement possible, en essayant de programmer ou de faire programmer des artistes dans les différents pays d'Europe, puisque les États-Unis c'est un petit peu compliqué, et en essayant de faire connaître un petit peu tous ces gens-là, en essayant de faire le tampon avec le ministère de la Culture, avec les divers organismes. En fait, on essaye d'aller plaider la cause du blues auprès de personnes qui sont pas forcément tentées par la chose au départ.
Alors oui, ça, voilà. C'est bien résumé, mais alors défendre la cause du blues, j'allais dire en 2019, c'est pas un peu de plus en plus compliqué, je pense aux médias, je pense au grand public qui ne connaît pas le blues finalement.
Alors le grand public, j'ai très très peu de retours, Marc, si tu pouvais m'arranger, ça m'aiderait bien.
Je vais te remettre si tu veux, là, ça va mieux comme ça.
Voilà, ça va être mieux. Plaider la cause du blues auprès du grand public, c'est compliqué sans être compliqué. En fait, les gens s'aperçoivent que le blues, ils connaissent. Ils savent juste pas comment ça s'appelle. Et je pense que dans la mesure du possible, il vaut mieux pas qu'ils sachent comment ça s'appelle. Quand ils savent comment ça s'appelle, ça leur fait peur. Quand on leur dit « ça, c'est du blues », non, mais c'est encore un terme qui arrive à effrayer les personnes. Ouais. Et justement, donc le but, enfin, un de mes buts, c'est de vulgariser le terme pour que les gens n'en aient plus peur. Et voilà, on est en train de leur expliquer que le blues, c'est pas une musique dépressive, c'est pas une musique de cafard, même si ça peut aussi l'être, et c'est surtout pas une musique chiante. Donc voilà, c'est un petit
ça
peu
n'est
notre,
pas, comme dirait un intervieweur connu, ça n'est pas sale.
Hein, voilà. Le blues. Et voilà, et on essaye de plaider un petit peu la cause. Alors c'est vrai que quand tu arrives en disant tiens, on fait du blues, les gens te regardent en ouais, bon. Qu'est-ce que ça va faire ? Et puis en fait, on a des très très bons retours.
Et alors, quand il y a un programmateur de salle qui te répond, moi je fais un groupe de blues, et qui te dit, non, moi ça va pas être possible parce que nous on fait les musiques actuelles. Qu'est-ce que tu répondrais, toi ?
C'est toujours un petit peu compliqué. Tu peux pas forcer les gens. Tu peux pas forcer les gens à programmer des choses qu'ils n'ont pas envie de programmer. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est de leur expliquer justement plus largement ce que c'est. Et si on arrivait à avoir un petit peu plus de blues à la télé, si on arrivait à avoir un petit peu plus de blues à la radio, si on arrivait à avoir des choses un petit peu différentes, ça serait déjà un des bons arguments. Je pense que si Nagui, par exemple, s'amusait à faire un taratata spécial blues, une chose que je lui ai demandé à plusieurs reprises, j'attends toujours une réponse, mais si Nagui se décidait à nous faire un taratata spécial blues, Ça pourrait être une bonne chose, ça pourrait être un bon déclencheur.
Pourtant, il y a des artistes de blues qui ont fait cette émission. Enfin, moi, j'ai souvenir de Paul Persson, j'ai souvenir de Lucky Peterson, il y en a eu quelques-uns. Qu'est-ce qui fait que, voilà, il y a une espèce de plafond de verre, on n'arrive pas à créer ce que B.B. King avait, lui, réussi dans son pays, ou quelques autres, une espèce de crossover, comme ça. Ça marche pas en France. Ça marche en Allemagne, ça marche en Scandinavie, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Danemark. Ça marche pas en France. Pourquoi ?
Alors, il y a une explication qui me semble assez simple, c'est que je pense que les gens n'y croient pas assez chez nous, et les gens eux-mêmes n'y croient pas. Entre une partie d'intégristes qui essayent de se conserver le blues pour elles toutes seules, et une partie de personnes qui sont encore un peu frileuses et qui se disent « oui, mais ça marchera jamais », on n'a pas le véritable déclencheur. Et c'est un peu dommage, donc c'est ce qu'on essaye de faire comprendre, on fait comprendre aux gens. Alors, j'ai commencé ça il y a très très longtemps avec Jean Guillermo à l'époque de Blues sur scène, justement, où on emmenait le blues dans les villages et où les gens arrivaient, et les gens à la sortie des concerts se disaient « Ah mais c'est ça le blues, mais on en écoute chez nous, on ne savait pas que c'était ça ». Et c'est tout à fait ça, et c'est là qu'il y a une énorme importance de la part des festivals qui se considèrent comme petits, mais qui ne sont pas des petits festivals quand on voit les scores de fréquentation qu'ils ont. Je repense à Marc Mitou et toi à l'époque de Bougie, qui est un grand festival, même si c'était un petit village. Je pense à Kessai, je pense au Buy, je pense au Bar, à tous ces endroits qui ne sont pas des gros festivals médiatisés.
Territoire aussi, peut-être.
Oui, qui ont une importance phénoménale parce qu'ils amènent des gens dans leur manifestation, des gens qui ne connaissent rien au blues à la base et qui repartent et qui ont entendu parler de blues pendant 2 jours, 3 jours.
Et qu'est-ce que tu penses d'une démarche qui est faite, par exemple, par un festival comme le Cognac Blues Passion, d'ouvrir la programmation à d'autres horizons musicaux, quitte à faire en sorte que les gens qui ne viennent pas écouter du blues vont quand même en entendre en première partie ou sur d'autres scènes annexes?
Alors, la démarche est positive, ce que je pense. Le problème, c'est que je ne suis pas certain que les gens qui viennent voir le gros concert de fin de soirée aillent faire l'effort d'aller voir les autres scènes en journée. Donc c'est un petit peu le problème. Après, je comprends tout à fait la démarche de Michel, qui est obligé de programmer quand tu as une jauge comme celle de Cognac. Tu peux pas programmer un artiste de blues pur en fin de soirée. C'est pas possible qu'il n'y ait pas 5000 personnes. Regarde, quand il a fait B.B. King, c'était, je sais pas combien il a fait, mais il a dû faire 3000 personnes au maximum. Donc on pourra jamais remplir ce genre d'endroit. Ça, c'est certain. Alors, l'intérêt, après, oui, ce qu'il faut, c'est ce qu'il a fait à l'époque du B.B. King. Il avait fait Awake en première partie. Ça, c'est super, parce que ça permet à Awake de se faire voir par un nombre important de personnes. Mais ce qu'il faudrait, c'est que cette démarche soit encore plus fréquente et encore plus importante.
Et France Blues a son rôle à jouer aussi pour le renouvellement du public. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites par France Blues pour faire en sorte d'aller vers les jeunes, vers les gamins, le futur public du blues?
Alors, on a une action jeune auprès du public. J'ai demandé à ce qu'on crée une adhésion gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans. Donc, chaque jeune qui veut adhérer à France Blues nous envoie un bulletin d'adhésion, son chèque, donc, puisque c'est gratuit, avec ses coordonnées, les coordonnées de son représentant légal. Nous, en échange, on lui enverra des petits cadeaux, donc des CD de blues qu'on a en stock. Et des petits cadeaux qui vont lui permettre de découvrir le blues. Et on a toutes ces choses-là en échange. Et on a aussi demandé à pas mal d'organisations de nous faire des entrées à tarif réduit pour les jeunes. Donc on a quelques manifestations qui ont joué le jeu et qui le font.
Je pense également à des actions comme celles qui ont pu être conduites durant le festival Blues sur scène, qui continuent à l'être d'ailleurs pour certaines. C'est d'aller voir les jeunes là où ils sont, c'est-à-dire dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Est-ce qu'il y a des projets comme ça qui animent l'équipe de France Blues?
Alors nous, on n'a pas le projet de faire des interventions. On est une toute petite équipe, en fait, donc on a un problème de disponibilité. Par contre, on a un projet qui s'appelle Pédago Blues, voilà. sur lequel on centralise l'offre, donc non exhaustive, parce qu'on en a encore quelques-unes à mettre en ligne. Et si d'autres arrivent, on sera enchanté de les étudier. Donc on met l'offre pédagogique en ligne sur notre site et on la relaie systématiquement, d'une part à la SACEM et d'autre part aux autorités, Donc c'est disponible chez nous, on a créé un label de qualité qui s'appelle donc Pédago Blues et que l'on peut, que les artistes qui ont obtenu ce label peuvent afficher et peuvent se revendiquer des temps soutenus par une fédération.
Mmh. Alors pour connaître toutes les activités de France Blues, il y a un site tout simplement, www.franceblues.com, je pense qu'on peut s'y rendre et puis se rendre compte un peu de l'activité. Il n'y a pas uniquement des projets comme ça, comme tu dis, Pédago Blues, etc. Il y a également une actu, il y a un site qui est animé par toi en partie, mais il y a plein d'infos qui arrivent. Je pense que si on s'intéresse au blues, on s'intéresse bien sûr aussi à la presse écrite, il y a Blues Magazine, il y a Soulbag, il y en a quelques autres, mais aussi le site de France Blues qui se veut le relais d'un certain nombre d'infos, des sorties de disques, d'albums, de livres, également des festivals, des annonces de concerts, des infos, enfin il y a tout plein de choses. Franceblues.com, je crois qu'il faut y aller. C'est toi qui t'en occupe principalement, Fred, de la mise en ligne?
Ouais, c'est moi qui m'occupe de la mise en ligne parce que bon, c'est moi qui ai les clés du camion, on va dire. C'est moi qui administre le site, donc je m'occupe aussi de la mise en ligne, mais je me sers surtout des informations que les gens m'envoient. Donc si vous avez des informations blues à m'envoyer, n'hésitez pas dans la mesure du possible et dans la mesure où ça a un intérêt d'être partagé. On a une page Facebook sur laquelle vous pouvez partager tout ce que vous voulez, mais on a surtout les informations importantes qui arrivent. Le problème des informations, c'est qu'elles se poussent les unes les autres, donc on n'en met pas trop à la suite. Et toutes les informations considérées comme étant majeures du blues, on les met
d'accord
obligatoirement en ligne, forcément.
Fred, pendant que tu parles, pendant qu'on est ensemble en direct sur le 666, il y a des gens qui écoutent l'émission, bien sûr, et qui se penchent sur le Facebook Sweet Home Chicago. Il y a deux interventions dont je voudrais te faire part. Tout d'abord, Alain Yo qui te demande combien de bouteilles de Jack tu as mis dans ton sous-sol, finalement. Ça, c'est une question vitale, quand même.
Ouais.
Voilà. Je ne suis pas obligé de répondre.
Je dois en avoir plus de 300, à peu près.
Et puis, il y a Olivier Durousseau qui écoute régulièrement l'émission et qui te demande si on peut inclure aussi dans le blues. Alors, je pense que là, c'est une question personnelle. Ça va être ton point de vue qui va trancher, Fred. Est-ce qu'on peut inclure aussi dans le blues l'Afrique, les Balkans, le Maghreb?
Oui, bien sûr, sans problème. On peut rajouter le Portugal aussi avec le fado. On peut rajouter tout un tas de choses. Je pense qu'on se limite pas aux 12 mesures bêtes et méchantes comme elles ont été fabriquées aux États-Unis. De toute façon, tout part de l'Afrique, donc on sait que ça vient de là. Donc évidemment les rythmes africains sont dessus. Après, les influences balkaniques, elles sont importantes. Il y a plein de choses aussi. Il y a l'Égypte aussi. Il y a un blues égyptien qui est formidable. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a du blues indien qui est de très bonne qualité.
Il y a le Mali aussi. Hein, n'oublions pas le Mali.
Il y a le Mali aussi, bien sûr. Donc là, on est plus dans le, on retourne dans les racines africaines de la chose.
Ouais.
Mais oui, on a toute cette musique des Touaregs. On a toute cette musique. On a tout ce blues mondial qui a une importance particulière. Et je sais que moi j'aime beaucoup, c'est l'avantage de Zikazik aussi, c'est que ça me permet d'aller justement chercher ces choses. Et quand je reçois un disque qui m'arrive des Philippines, des fois je me dis tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, et j'entends purement et simplement des gammes de blues qui ressemblent pas à celles du Mississippi, bien sûr, mais c'est tout à fait de la gamme de blues, c'est les mêmes schémas, c'est les mêmes scores.
Il y a quelques jours, je recevais un disque qui venait des pays baltes. Je me suis dit tiens, enfin un groupe estonien, il y en a pas beaucoup. Et puis non, c'était un groupe brésilien. C'est en fait le type au Brésil a pris un producteur estonien pour envoyer ça en France. Enfin voilà, c'est le blues est devenu mondial. On en est convaincu depuis des années. On va parler un peu des États-Unis, Fred, parce que arrive la fin déjà de cette première heure. Et puis on a encore un autre invité derrière. J'aimerais qu'on parle rapidement de ce prochain voyage que tu programmes avec notamment Sylvie Boss, qui fait suite à trois autres voyages qui ont donné naissance à un livre qui s'appelle En terre de blues. Ce livre, on peut se le procurer. Il y a un lien, bien sûr, sur la page France Blues. En deux mots, tu peux nous dire ce qu'il y a dans ce livre, Fred?
Alors, le livre, c'est un projet un petit peu original. En fait, j'ai souhaité compiler des photos faites par Sylvie. et les faire commenter par des personnalités du blues mondial. Donc, ce qui fait qu'à l'intérieur de ce livre, beaucoup de personnes sont allées faire des commentaires, mais des commentaires très personnels. Donc on a Brucey Glover qui nous a fait un commentaire, on a Greg Zlapp, on a Fred Chapelier, on a Hervé Joachim de Blues Power Band, mais on a aussi Mike Vernon, le producteur de David Bowie, on a Jean-Marie Perrier, on a des journalistes croates, des journalistes polonais, et tout un tas de personnes de la Blues Foundation, Watermelon Slim, Manu Lanvin, enfin tout un tas de personnes qui nous ont fait des commentaires. Donc ça donne une collection de commentaires très personnels sur des photos qui ont tout un rapport avec le blues, mais pas le blues comme on l'entend. Donc c'est pas des photos de scène, c'est pas des photos d'artistes.
D'accord.
C'est des photos de vie. En fait, si lui a bien compris ce que je lui demandais à ce niveau-là, je lui ai demandé de nous donner des photos vivantes. Et elle nous les a sorties de fort belle manière.
Et alors, donc Sylvie Bosque qu'on avait au téléphone il y a quelques semaines, qui a été l'objet de la toute première de ses interventions autour des photographes du blues, elle animait cette exposition sur la traverse. Et là, il y a une exposition directement à Memphis, là où vous allez vous rendre dans quelques jours.
Ouais, alors elle est exposée pour 6 mois au Blues Hall of Fame de la Blues Foundation, donc le temple du blues, quoi, celui où Buddy Guy vient quand il vient au Blues Music Awards, l'endroit culte, l'endroit où il faut être allé. Donc ce qui est bien, c'est que ces photos vont être vues par un nombre incalculable de personnes, et ça c'est d'une importance capitale pour elle, je pense, et pour nous aussi qui nous sommes battus pour qu'on arrive à faire ça. Et voilà, donc 6 mois d'exposition avec une grosse fréquentation et plein de belles choses derrière, c'est une vraie consécration pour elle.
Très bien. Et puis ce prochain voyage donc, que vous programmez, il va inclure la prochaine édition de l'IBC, l'International Blues Challenge de la Blues Foundation. Est-ce que tu as déjà tu peux déjà nous donner des échos par rapport déjà aux groupes français qui vont s'y produire? Tu peux nous en rappeler les noms et puis nous dire quel est leur état d'esprit actuellement, avant le départ?
On a Fred Crevelier Blues Band qui va se produire dans la catégorie groupe, qui est à fond là. Ils sont vraiment tous à fond dans l'aventure. Ils sont en train de préparer leur valise. Ils sont dessus. On est en train de se causer tous les jours de techniques.